Sur le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komanicki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de longtemps, de partout, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écouter. Alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue 7 fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Déclaré champion toute catégorie, on me surnomma l'embaumeur, la bombarde, le canonnier, l'artificier, l'artilleur, le baroudeur, le mortier, bombe à gaz, bazooka, Bertha, roquette, la bourrasque, le souffleur, l'anesthésiste, le chalumeau, la fuite, l'odorant, le bouc, putois, grisou, gazogène, l'éolien, la voisin, Borgia, Zéphyr, Violette, Vent, Vent, Mister Poum, Prout Cadet, Cocotte, Gazoduc, Camping Gaz, Perlouse, j'en oublie certainement. Serge Gainsbourg, Evgeny Sokolov. Parce qu'elles ont tant à dire ce mois-ci, offrons un petit vent de liberté à nos bouches de derrière. Il ne faut jamais retenir un vent. C'est impoli vis-à-vis de ton corps. J'ai entendu parler d'une grande actrice qui était si distinguée qu'elle les retenait tous. Ils se mouvementèrent tant en son intérieur qu'elle explosa et mourut. Aussi ne crains-je point d'émettre quelques vents, et je tire santé et gloire de leur violence qui ferait blanchir de frayeur les cheveux d'un régiment, et je suis fière aussi de leur ampleur, telle qu'on pourrait avec 3 ou 4 d'entre eux gonfler les voiles d'un galion de haute mer. Albert Cohen, Manche-Clou.
Thank you. feel, I feel all right. Yes, I begin to feel all right now. Yeah, yeah, I tell you, everything's gonna be all right. Splash! Flush.
Tu le sais peut-être déjà, mais à une époque, les chiens parlaient. Et pour parler, les chiens avaient deux bouches, la bouche de devant et la bouche de derrière. Et ils aimaient tellement parler qu'ils se réunissaient très régulièrement dans une petite grotte de seuls connus. Et là, ils parlaient. Seulement de temps en temps, c'était les bouches de derrière qui parlaient le plus et dans ces moments-là, on n'arrivait plus à réfléchir et un jour, le plus intelligent des chiens a dit « c'est plus possible ». On n'y arrive plus. Vous l'avez remarqué, quand nos bouches de derrière s'y mettent, on n'arrive plus à penser, alors voilà ce que je propose. À la prochaine réunion, chacun d'entre nous va retirer sa bouche de derrière, la laisser à l'entrée de la grotte et puis on la récupérera à la fin de la réunion, d'accord ? Oui, ont dit les autres chiens. Et comme ils ont dit, ils ont fait. À la réunion suivante, chaque chien a retiré sa bouche de derrière, l'a déposée juste à l'entrée. Ils sont entrés dans cette petite grotte de seuls connus. Et là, ils ont conduit une réunion de haute volée. Les pensées étaient claires et les mots étaient beaux. Et ça tournoyait autour de délicieusement. Et pendant ce temps, dehors, un petit vent malin a repéré les petites bouches posées sur le rocher. Il a trouvé ça rigolo, le vent. Alors il est descendu et fuit, 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 fuit. Il a tout mélangé. Et puis il est reparti dans un petit ricanement de vent. Quand ils ont eu fini la réunion, les chiens sont sortis de la grotte et chacun est allé vers sa bouche de derrière et là, ils ont vu les bouches toutes mélangées. Ils ont commencé à chercher et retourner encore. Faut dire que leur bouche de derrière, les chiens, ils la connaissaient pas bien. Au bout d'un moment, le plus intelligent des chiens a dit « Bon, et ça suffit, on va pas non plus y passer une vie, une bouche de derrière, c'est jamais qu'une bouche de derrière, que chacun attrape la première qu'il trouve, se la colle, et puis on n'en parle plus.
» Oui,
ont dit les autres chiens. Et comme ils ont dit, ils ont fait. Chacun a ramassé la première bouche qu'il a trouvée, se l'est collée. Seulement, ils n'étaient pas bien, les chiens. Ils avaient honte et c'est à partir de ce jour-là qu'ils n'ont plus prononcé un seul mot. Aucun d'entre eux ne voulait revenir sur cette histoire. C'est aussi depuis ce temps-là que quand deux chiens se rencontrent, la première chose qu'ils font, c'est d'aller humer, scruter la bouche de derrière de l'autre. Ils cherchent. Ils ne trouvent pas. Nostalgie d'une bouche perdue.
J'ai tout dit, tout dit, dit, tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit, tout dit, tout dit.
Pour désigner le P, les Romains utilisèrent différents substantifs. Bombus, bombulus, flatus, spiritus, sibilus ani. Toutefois, le plus employé et hérité des Égyptiens resta sans contexte crépitus ou crépitus. Ainsi que l'avaient conseillé les stoïciens, la devise des hommes était « à la liberté ». Et comme Cicéron l'écrivit dans une épître, « il faut faire et se conduire en tout, selon que l'exige la nature ». Selon Clément d'Alexandrie, premier écrivain chrétien qui ait composé quelques traités et assumé toutes les traditions religieuses de l'humanité, Crépitus, le dieu du pé, aurait été inventé par les Égyptiens et plusieurs textes de Saint Jérôme, de Saint Césaire et de Minucius Félix ont confirmé cette élévation du pé au rang de divinité. Objet du culte et de la vénération d'un grand peuple sage et religieux, le pé eut droit à des temples, à des autels, à des sacrifices car on le considérait comme une divinité bienfaisante. Durant des siècles, il y eut de nombreuses discussions au sujet de certaines statuettes de bronze représentant le dieu propice, Crépitus. Il s'agit généralement d'un homme nu, accroupi, les joues gonflées, les coudes posés sur les genoux et la tête entre les mains. Des historiens ont affirmé qu'indiscutablement ces figurines représentaient le fameux Crépitus poussant de toutes ses forces pour faire un P. En 1767, un célèbre archéologue spécialiste des antiquités égyptiennes, étrusques, romaines et gauloises, graveur à ses heures, Anne-Claude Philippe de Tubière, comte de Caylus, a publié la gravure d'une de ses statuettes. Dans son texte, il affirme à son tour que c'était bien là une représentation de la divinité. Et il ajoute « S'il est vrai que les Égyptiens ont reconnu le dieu Pé, que les Romains l'ont vénéré sous le nom de Crépitus, cette figure de bronze accroupie qui n'est chargée d'aucune coiffure ni même d'aucun genre de vêtement et dont la tête est rasée, cette figure, dis-je, nous donne la représentation de ce dieu. Tout ce qu'on peut y remarquer convient à une divinité familière et sans cérémonie. D'ailleurs, son action est parfaitement représentée. Elle est juste et momentanée, telle enfin qu'elle doit être pour ce genre d'expression, je dirais plus. J'en ai peu vu d'aussi complète de cette nature, soit pour le nu, soit pour le trait et la disposition. Elle a même des sentiments de chair. Ces raisons m'engagent à regarder ce bronze comme un monument rare et recommandable. Toute idée de représentation mise à part. » Dès le IXe siècle avant Jésus-Christ, le grand poète Homère, auteur présumé de l'Iliade et de l'Odyssée, dit le père de la poésie grecque, a attribué dans son hymne à Hermès le premier triomphe pétomane au petit Hermès, le fils de Zeus et de Maïa. Lorsqu'il tomba des bras de son frère Apollon, il lâcha un petit présage insolent, serviteur de son ventre, messager impudent. Aussitôt que Zeus eut entendu le pé de son fils, il fut pris d'un énorme rire qui se répandit dans tout l'Olympe. Et délirant de joie, il dit à sa femme « Qu'aucun d'enfant, ah Maïa mon épouse, quel enfant précoce a jailli de tes flancs immortels !» C'est ainsi, sans doute, que de siècle en siècle, on dit depuis un rire homérique pour un rire bruyant. De nombreux philosophes allaient à leur tour défendre le pé. Métroclès, un disciple du philosophe Théophraste, 372-287 avant Jésus-Christ, se livrait, dit-on, à de longues et profondes méditations. Or, un jour, qu'il était particulièrement absorbé, il lâcha un pé, ce dont il conçut tellement de honte qu'il s'enferma chez lui et résolut à se laisser mourir de faim. Le philosophe Cratès, informé de cette décision, se rendit chez Métroclès. Après avoir mangé un énorme plat de lupin, il fit un long discours au philosophe suicidaire, l'engageant à ne point prendre un parti aussi funeste, mais comme toute sa rhétorique ne put faire renoncer son ami à son tragique projet, il lâcha lui-même un gros P. Cet exemple réconforta le philosophe qui reprit goût à la vie. Cratès a prouvé ainsi, dirent plusieurs historiens, l'irrésistible éloquence de Crépitus. Le philosophe grec Zénon, après avoir fait promulguer la loi sur la liberté zéphyrienne, donnait lui aussi le bon exemple en se nourrissant de lupin et en pétant en tout lieu. Un autre grec, Télémaque d'Acarnès, afin d'avoir à sa disposition le bienfaisant Crépitus, ne passait pas un seul jour sans ingurgiter une soupe de fèves, prétendant qu'il voulait être certain de célébrer convenablement le solennel anniversaire des Pianepsies. Ces pianepsies, c'était des fêtes que donnaient les Athéniens en l'honneur d'Apollon et de Minerve, en mémoire d'un repas de fèves qu'avaient fait Thésée et ses compagnons pour remercier ces divinités de la victoire sur le Minotaure. Une loi religieuse très sévère prescrivait aux Athéniens de se nourrir à cette occasion exclusivement de légumes et plus spécialement de fèves. Gargantua pétait si rudement que du vent qui sortait de son corps, il en faisait verser 3 charretées de foin et d'une veste en faisait moudre 4 moulins à vent, en plus de tuer un homme. En 1980, Serge Gainsbourg publie le roman Evgeny Sokolov. C'est l'histoire d'un peintre qui devait son talent à ses gaz intestinaux, à ses vents internes provoquant les soubresauts de sa main et faisant naître l'œuvre acclamée par les critiques. Il est difficile de ne pas faire un parallèle entre Gainsbourg et son peintre au gaz naturel. Les gaz pour l'un, la tête de chou pour l'autre. Evgeny Sokolov est un double, un avatar de son auteur. Nom russe francisé, artiste détruit à petit feu par le talent que lui a prodigué la nature, à la différence qu'Evgeny pratique l'art majeur et que Serge Gainsbourg pratique l'art mineur. En voici un extrait. Un jour que, me voulant prouver ma maîtrise, j'étudiais des aiguilles à coudre, que je dessinais d'un seul trait de plume, plein, délié, ouvrant le chat, suivi d'un plein le refermant. Une déflagration gazeuse particulièrement violente brisa le carreau de la verrière et fit trembler ma main comme celle d'un enfant atteint d'électrolepsie. Je contemplais d'abord les débris de verre épars à mes pieds. Et puis relevant les yeux sur mon dessin, je m'arrêtais fasciné. Mon bras venait de fonctionner comme un sismographe. À l'analyse, la fulgurante beauté de ce croquis paraissait émaner d'une sensibilité dangereusement exacerbée par quelques excitants médicamenteux, éphédrine, otédrine, maxiton, coridane. Semblable qu'il était à ces tracés électroencéphalographiques d'épileptiques. Tracé dont les ondes rythmiques paroxystiques correspondaient parfaitement avec les angles suraigus de son parcours. Je renouvelai aussitôt l'expérience. Posai ma plume ancrée de Chine sur le papier vertical et attendis le P suivant. Celui-ci s'avéra si magistral que la feuille de canson en fut zébrée sur 25 cm et même lacérée sur la fin du parcours. Je comparais ce tracé au premier et dus me rendre à cette évidence exaltante. mon procédé s'avérait d'une effarante efficacité. Non seulement il préservait la personnalité de mon écriture, mais encore, la sublimant de façon agressive, il laissait présager des combinaisons infinies. Et c'était pas là l'image d'un délire schizophrénique exprimé de façon chaotique et fragmentaire à partir de sensations ou sentiments incoordonnés, car ma main, durant la bourrasque, ne m'avait pas paru échapper totalement à mon contrôle. Tant était profond en moi le sens de l'esthétique et la science du dessin. Ainsi me disais-je dans l'obscurité de la nuit. Alors qu'en vain je cherchais le sommeil, les pestilences prémonitoires de ma mort corporelle allaient servir à véhiculer et transcender ce qu'il y avait de plus pur, de plus vivace et de plus désespérément ironique dans le tréfonds de mon esprit créatif. Et après tant d'années vouées à la technique picturale, tant de jours passés à émettre des gaz face aux simèses d'où irradiait le génie des grands maîtres, ces lignes brisées, frêles et tortueuses venaient de me débarrasser à jamais de ces inhibitions. Le lendemain, j'abandonnais l'escabeau classique et fixais en haut d'un trépied métallique, à l'aide d'écrous et de clés anglaises, une selle de bicyclette, munie de ressorts à boudin, qui donnèrent à mon siège, par ses transmissions mécaniques, un pouvoir d'amplification variable et la sensibilité d'un trépidomètre. Et 30 jours plus tard, j'avais en ma possession 40 gazogrammes, dont 15, rehaussé de la vie à la sépia, signé, numéroté de 0 à 39, que je résolus de montrer sans plus tarder à Gerhard Stoeffel, l'un des plus importants marchands de tableaux de l'époque, lequel me mit immédiatement sous contrat, me priant instamment de ne pas changer ma facture d'un iota. Vous savez ce que c'est Sokolov de nos jours, les Américains. Et c'est en février 1009, que je pus lire ce Bristol ainsi libellé. Galerie Zumstig Hauptmann, Gerhard Stoeffel vous prie d'assister au vernissage des œuvres du peintre Evgeny Sokolov. Et quoique peu enclin à s'exhiber, il fallut à ce dernier faire acte de présence.
Thank you.
Si le sujet vous passionne, vous pourrez retrouver toutes les références aux articles qui ont servi à composer cet opus inspiré, musique et extrait, sur la page de l'émission. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour ce mois-ci. Je remercie Pauline Lemaire Desmarais pour la réalisation. Et on se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission sur les ondes de Radio-La.